L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être avec nous. Tout à l'heure, notre World Tour, bien évidemment, comme chaque semaine, et puis la rédaction de 01net.com juste après pour nous intéresser à toute l'actualité high-tech que vous avez pu lire cette semaine sur 01net et le crash test d'Antoine ensuite. Mais dans l'immédiat, notre passion selon Sanet et en compagnie de Lila Megrawa et de nos invités. On va parler du transhumanisme cette semaine, Lila, le transhumanisme au service du progrès social.
Mais oui, tout à fait, parce que le transhumanisme, c'est un courant objet de beaucoup de fantasmes. Alors on a le plaisir d'avoir à la fois en studio et par téléphone deux messieurs auteurs d'un ouvrage intitulé Technoprog, le transhumanisme au service du progrès social, paru aux éditions FIP. Alors Marc Roux, bonsoir. Marc Roux, vous êtes président de l'association France Transhumaniste Technoprog et nous avons également en studio Didier Cornel. Bonjour.
Bonjour.
Alors Didier Cornel, vous êtes porte-parole de l'association française Transhumaniste Technoprog également et vous êtes tous deux co-auteurs de cet ouvrage. Alors racontez-nous un peu, messieurs, pourquoi cet ouvrage ? Est-ce que vous aviez la volonté de dissiper un peu tous ces fantasmes qu'on peut avoir sur le courant transhumaniste. Vous narrez d'ailleurs Didier Cornel.
Donc, il y a effectivement, comme vous dites, beaucoup d'inquiétudes, je dirais, concernant le transhumanisme en France, dans les pays francophones et plus largement en Europe. Ça correspond à beaucoup d'interrogations que nous abordons dans l'ouvrage et ça correspond aussi à un certain nombre de croyances, on va dire, de perceptions incorrectes que nous voulons dissiper et pour lesquelles nous souhaitons également très largement organiser des débats, permettre des discussions, d'où ici et puis à d'autres niveaux également.
Marc Roux.
Oui, en plus de ça, je crains que depuis les quelques années qu'en France on a commencé à entendre parler de ces sujets-là, les différents commentateurs, critiques qui se sont penchés sur la question ont présenté une vision assez réductrice et parfois caricaturale de ce qu'ils pensaient être le transhumanisme. Ils ont présenté une vision essentiellement anglo-saxonne, c'est déjà caricaturé de s'arrêter à cela. Ils l'ont présenté comme quelque chose qui serait juste l'émanation d'un hyper-individualisme libéral-libertaire, vous voyez, très très californien, sans se rendre compte que la pensée transhumaniste allait bien au-delà de ces expressions-là.
Alors,
donc
dans
à travers ce livre,
vous...
nous essayons en effet de préciser les choses.
Alors dans l'ouvrage, vous évoquez plusieurs courants. Quelle en serait la définition la plus simple ? Quelle serait la définition la plus simple qu'on pourrait donner du transhumanisme aujourd'hui ?
Alors, personnellement, ce qui me paraît le plus clair, c'est de dire qu'il s'agit d'une prise de conscience. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, je pense que le transhumanisme, c'est quelque chose qui se justifie parce que nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, nous sommes capables d'intervenir volontairement, sciemment, et donc en responsabilité, sur notre propre évolution, aussi bien en tant qu'individu qu'en tant qu'espèce. Et c'est ça qui change tout, le fait de se rendre compte qu'on peut intervenir. Donc voilà, prise de conscience en une expression.
Didier Cornel.
Oui, et la première prise de conscience, c'est par rapport à la longévité. Tous les transhumanistes se retrouvent sur le souhait de permettre à ceux qui le souhaitent une vie en bonne santé beaucoup plus longue. Et ce sur quoi à l'AFT nous insistons particulièrement, c'est pour le mettre à disposition dès que possible à tous, sans distinction au point de vue des possibilités financières. Et par rapport à ça, un des aspects très importants, c'est qu'il y ait au niveau notamment des institutions publiques une prise de conscience de cette possibilité de prendre en main son destin. Et cette prise de conscience peut permettre notamment des investissements dans la recherche.
Alors justement, à propos longévité, prolongement de durée de vie, je vais poser la question un peu candidement, mais est-ce que ça veut dire qu'on sera immortel un jour ? Est-ce que la mort de la mort, pour citer notamment Laurent Alexandre qu'on a reçu plusieurs fois à ce micro, ne serait plus une utopie ?
Alors Marc me complétera très certainement, mais donc ce n'est pas l'immortalité, même si on utilise très souvent le terme, c'est permettre de ne plus mourir de vieillesse. Aujourd'hui, dans un pays comme la France, plus de 90% des décès sont dus à des causes liées au vieillissement. Donc si vous supprimez toutes les causes de mortalité liées au vieillissement, vous avez une espérance de vie tout à fait considérable de plus de 1000 ans. Et donc c'est pour ça qu'on utilise souvent ce terme-là. Mais donc cela n'est pas l'immortalité. Pour toutes les raisons qui ont déjà été dites en quelques mots. Et cela veut dire aussi, parce que l'immortalité, ça voudrait dire l'impossibilité de mourir. Donc c'est pour ceux qui le souhaitent.
Donc c'est bien l'homme augmenté, plus que l'homme à durée de vie infinie,
oui,
Mark Rox.
Utilisé par divers transhumanistes, c'est un terme choc, en effet repris plusieurs fois par Laurent Alexandre.
Oui, la mort
et
de la mort,
ouais. Il a, à mon avis, l'inconvénient d'être porteur de confusion, parce que c'est un terme qui a une dimension métaphysique, quasi religieuse. Quand on l'utilise, on donne à penser que le transhumanisme serait l'équivalent de quelque chose comme une religion. Or, je ne pense vraiment pas que ce soit le cas, il n'y a pas de dogme en transhumanisme, la très grande majorité, mais alors en France c'est 95 à 99% des gens qui se réclament du transhumanisme ne se réclament pas d'une démarche spirituelle, si vous voulez. Donc le mot immortalité ne correspond pas, on parle plutôt d'amortalité, éventuellement, ça existe, et plus généralement en effet d'augmentation radicale de la durée de vie en bonne santé.
Mais est-ce que vous pensez concrètement qu'on va être face à une catégorie d'hommes réparés, augmentés, d'autres pas ? Didier Kernel, vous l'évoquiez assez rapidement en début d'interview. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir des gens laissés sur le carreau par manque de finances, par manque de d'accès à ces biotechnologies avancées.
Il y a un risque durant une phase temporaire, dans la mesure où ce n'est pas l'État, où ce n'est pas la puissance publique qui fait les investissements par rapport aux recherches. Si demain quelqu'un trouve, ce ne sera pas comme ça, mais prenons l'image simple, la pilule pour vivre sans limitation de durée. Cette pilule, on pourrait imaginer qu'elle serait en vente, mais les pressions politiques, morales, éthiques, économiques et autres pour que ça soit mis à disposition de tous seraient tellement gigantesques que ce serait avantageux pour tous, y compris pour celui qui, entre guillemets, possède cette pilule, de la mettre à disposition pour un prix modique. Ceci dit, donc, et notamment parce qu'il y a une inquiétude à ce sujet-là, c'est tout à fait souhaitable que ces recherches-là soient des recherches collectives, comme les recherches qui sont utiles à l'ensemble de la société sont des recherches qui, généralement, sont financées par l'ensemble de la société. Mais donc, encore une fois, ce que nous avons tous dans notre poche, le téléphone intelligent, c'est des milliards d'euros de recherche, des dizaines de milliards de développement. Et là, maintenant, ça coûte quelques dizaines d'euros.
Oui, aujourd'hui c'est accessible.
Donc, c'est extrêmement cher. Ce sont les recherches qui sont extrêmement chères. Et une des choses sur lesquelles nous insistons, un euro que vous investissez pour permettre une vie beaucoup plus longue en bonne santé, c'est utile potentiellement non seulement à tous les citoyens ici, mais c'est même utile potentiellement à tous les citoyens de la planète. Un jour comme aujourd'hui, il y a à peu près 160 000 personnes qui vont décéder. Et parmi ces 160 000, 110 000, donc la majorité des citoyens de la planète, meurent de maladies liées au vieillissement. On a toujours cette image, enfin on a souvent cette image, je dirais particulièrement par les progressistes, que aujourd'hui, en réalité, on meurt d'abord de faim et que l'on meurt de vieillissement. dans un pays comme le Bangladesh, l'espérance de vie atteint environ 70 ans. Il n'y a plus, malheureusement, mais il n'y a plus que dans les pays d'Afrique subsaharienne que les maladies liées au vieillissement ne sont pas la première cause de mortalité.
Aujourd'hui, où en sont les avancées concernant l'augmentation de l'humain,
de l'espérance de vie,
de l'espérance de vie. Enfin, à quel il y avait notamment Laurent Alexandre encore une fois qui avait cité je ne sais plus qui en disant que l'homme qui vivra 200 ans est déjà né. Est-ce que vous partagez cette foi-là? Est-ce que le premier homme augmenté est déjà né? À quelle échéance on pourra peut-être avoir un bras bionique accessible à tous?
Donc, justement, ce n'est pas une question de foi. C'est une question notamment de choix politique. C'est une question donc entre le premier objet dans l'espace à la fin des années 50 et le premier être humain sur la Lune, il s'est passé une douzaine d'années seulement. Parce qu'il y avait une volonté politique, pour des raisons aussi géostratégiques. Mais donc, si le changement de paradigme se fait, que la perception que cela devient quelque chose d'atteignable se fait, eh bien, il est tout à fait possible que dans 20 ou 30 ans, nous ayons les thérapies géniques ou les nanotechnologies ou les produits et aussi accéléré grâce aux progrès en matière d'intelligence artificielle dont on commence aussi à se servir dans le domaine de la santé. Mais donc savoir si la première personne qui vit aujourd'hui, enfin si la première personne qui atteindra l'âge de 1000 ans est déjà née ou pas, ça dépend notamment de nos investissements dans ce domaine-là. Il n'y a pas de certitude. De nos investissements publics ou des investissements en général, il n'y a pas de certitude. Le fleuve du progrès, c'est un fleuve puissant qu'on ne peut pas interrompre, mais qu'on peut canaliser.
Eh ben, je crois qu'on va rester sur cette très belle idée. Messieurs, merci beaucoup. Je rappelle, vous avez coécrit l'ouvrage Technoprog, le transhumanisme au service du progrès social, paru aux éditions FIP. Et je vous invite vraiment à le lire. C'est passionnant.
Voilà, transhumanisme, un sujet, c'est vrai, dont on pourrait parler pendant des heures. Merci beaucoup à tous les deux. On revient dans un instant, la suite de l'atelier dans un instant sur BFM Business. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business, la rédaction de Zéronet.com dans quelques minutes, comme chaque samedi. On jettera un œil sur l'actualité high-tech de cette semaine avec, entre autres, Apple, hein, et ses nouveautés qui ont été annoncées il y a quelques jours, avec entre autres un nouvel iPhone et puis un nouvel iPad. Mais auparavant, notre World Tour, direction l'Estonie cette semaine avec vous, Aurore Géraud.
Alors, nous sommes en compagnie de Catherine Niemann-Metcalf, qui est professeure de droit à l'université de Tallinn et responsable de la recherche e-gouvernance. Catherine, bonjour.
Bonjour.
Nous étions le 15 mars dernier à l'ambassade d'Estonie en France, à l'occasion d'un événement co-organisé avec le Conseil national du numérique sur l'e-gouvernance, l'e-gouvernement, les services numériques en ligne, beaucoup de choses. On sait que on a appris que l'Estonie, 90% de sa population était en ligne. On a appris que un tiers des votes se faisait en ligne, qu'il y a des records en matière de rapidité pour la création d'entreprise, je crois que c'est 18 minutes et tout est en ligne en fait. L'identité numérique est en ligne, le dossier médical est en ligne. Donc du coup, qu'est-ce qui fait, Catherine, que l'Estonie est aussi en avance en matière d'e-gouvernance? Est-ce qu'il y a moins de tabous?
Je crois que culturel et l'historique en effet sont très importants. C'est une question qu'on nous pose souvent parce que quand nous travaillons dans les différents pays du monde avec les gouvernances, comme consultants, etc., on nous demande souvent comment c'est possible qu'Estonie est tellement en avance. Et c'est pas facile à répondre. Et c'est pas comme si on sait exactement pourquoi. Mais je crois que ce qui est important, c'est que nous avons commencé presque de zéro après l'occupation soviétique, il y a 25 ans. Comme ça, c'est plus facile de faire quelque chose de totalement différent que de changer quelque chose qui marche déjà. Et on voit ça dans, pas seulement en France, mais dans d'autres pays en Europe, par exemple, où il y a une administration qui marche assez bien. Et de changer tout ça pour aller à numérique, pour aller à e-gouvernance, c'est plus difficile que d'aller très vite d'une point de départ qui est très bas. Parce qu'on voit aussi dans d'autres pays du monde, les pays en voie de développement, par exemple, qui sont parfois plus rapides avec les différentes solutions. On voit les, par exemple, les services bancaires en Afrique, sur les mobiles, etc. Nous avons eu les champs, premier ministre et des autres ministres, mais aussi des champs dans l'administration en Estonie, à un certain moment, il y a près 20 ans, qui ont seulement pensé qu'on peut faire quelque chose de différent. Et maintenant, déjà, on peut parler d'une sorte de culture, qu'on a l'habitude de faire les choses en ligne. Comme ça, on n'a pas peur de ça et ce n'est pas seulement les jeunes qui ont l'habitude, etc.
Comment, c'était une grande question pendant cet événement, comment est-ce qu'on rassure sur la sécurité de données? On a parlé qu'en France, on avait le choix entre le numérique ou le non-numérique. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de rassurer?
Oui, il y a beaucoup de choses à faire, en effet. C'est très important parce que je pense que la protection des données, il faut parler de ça. Quand on veut développer des services des gouvernements, c'est très important aussi la perception que les données électroniques sont moins sûres, etc. Donc, il faut utiliser les moyens technologiques pour protéger les données. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons parlé, par exemple, comme en Estonie, quand les autorités regardent les données d'un particulier, ça laisse une empreinte. Donc, moi-même, je peux voir quelles autorités ont accédé à mes données. Et quand on explique ces choses-là au champ, ils ont peut-être plus de confiance. Donc, on peut utiliser ces mesures technologiques pour donner de confiance. La transparence est très importante. Il faut parler, expliquer, et il faut aussi se souvenir que la plupart des gens ne comprennent pas très bien tout ça, toute la technologie. Il faut expliquer d'une manière facile. Donc, ça, c'est d'un côté. D'autre côté, confiance, c'est comme vous avez dit, c'est une très grande question. Qu'est-ce que c'est? Comment on peut créer confiance en société? C'est quelque chose qu'il faut faire aussi indépendamment aux numérisations, parce que c'est une question de société. Je crois que c'est vrai qu'en Estonie, on a confiance en notre gouvernement, etc., dans les autorités, mais pas aveuglément. C'est pas comme s'il n'y a jamais des problèmes ou les gens qui se doutent. Je crois que le plus important, c'est peut-être qu'on a un dialogue, qu'on est très transparent et le gouvernement vraiment fait des efforts à expliquer qu'est-ce qu'on fait. Et toutes ces choses numériques, électroniques, très compliquées, on peut l'expliquer très facilement. Ça, je crois que c'est très important.
Vous avez parlé de très forte transparence. Sim Sikkut, qui est conseiller numérique au premier ministre estonien, a parlé, lui, d'un gouvernement invisible. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de partir vers de la déshumanisation?
Oui, je crois que oui. Et je ne sais pas si je veux un gouvernement invisible. Je ne travaille pas pour le gouvernement. Moi, je peux le dire. Mais cette question est très intéressante, je crois, pas seulement d'humanisation, mais aussi la question des symboles, parce qu'on a les symboles de gouvernement, on a les symboles de pouvoir, et comme ça, on sait qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et je crois qu'on n'a pas suffisamment pensé à ça dans un monde où je peux voter dans ma chambre, dans mon pyjama, par exemple. C'est totalement différent que de se rendre quelque part. Et aussi, quand je parle avec les autorités, même façon que je parle avec mes amis sur Facebook, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire pour l'idée qu'on a d'un gouvernement? Est-ce que ça, je me sens plus proche du gouvernement ou est-ce que je pense que ça n'a pas d'importance, par exemple? Donc, je crois que c'est très important. Et c'est quelque chose qu'aussi en Estonie, on a besoin de parler plus de ça et on a besoin d'intégrer pas seulement les champs techniques et pas seulement les juristes, mais aussi toute la société, de parler de ça, des symboles, des humanisations, etc. Aussi, je peux ajouter qu'en Estonie, on utilise beaucoup les services en ligne, mais pas totalement. Il y a encore des, on peut utiliser, on peut choisir de se rendre quelque part. Et parfois, on est même surpris pourquoi tant de gens n'utilisent pas les services électroniques. Même s'ils disent que c'est très facile, ils savent exactement comment le faire. Et il y a pas mal de gens qui disent, mais c'est assez sympa d'aller quelque part parler avec quelqu'un. Nous sommes un petit pays, surtout dans les petites villes, on connaît tout le monde. Et c'est quelque chose à faire d'aller prendre un café et de faire quelque chose comme ça. Et cet aspect, je ne crois pas que ça va disparaître. Et c'est peut-être même pas, on veut pas que ça disparaisse parce que c'est cet aspect humain. Et il faut garder aussi ça. En même temps, bien sûr que s'il y a très peu de gens qui utilisent un service non électronique, on ne peut pas garder ça seulement pour l'aspect social. Donc, il faut trouver quelques balances entre les deux.
Merci beaucoup.
Merci, Aurore. Et après l'Estonie, place maintenant à l'atelier US. Et nous allons nous intéresser aux relations entre grands groupes et start-up avec vous, Arnaud Auger.
Oui, bonjour, je suis donc avec Arnaud Bozon, le responsable des relations avec les grands groupes de 500 startups, un accélérateur et investisseur de startups dans la Silicon Valley, qui a déjà travaillé à l'INSEAD, l'école de commerce à Singapour, mais aussi pour Orange, Microsoft, Bouygues Construction, qui est célèbre pour son rapport sur les écosystèmes Startup à Singapour, réalisé par et avec passion. Mais c'est bien depuis San Francisco et pour un autre rapport, justement sur la relation entre les startups et les grands groupes, que nous l'interviewons aujourd'hui. Bonjour Arnaud.
Bonjour Arnaud.
Alors, pourquoi ce rapport sur les startups et les grands groupes?
L'idée du rapport vient justement de cette tendance, hein, des collaborations qu'on peut voir au travers entre les grands groupes et les startups. Et donc, on a décidé de regarder non pas 100, mais 500 entreprises au niveau mondial et de justement pouvoir partager au travers de cette boîte à outils les différentes manières qu'une grande reprise a de créer une relation avec les startups ou justement de l'étoffer s'ils sont déjà en train de travailler avec les startups.
Quel est l'objectif de 500 startups avec les grands groupes?
On a déjà différentes relations avec les grands groupes en tant qu'accélérateurs et fonds d'investissement. Donc justement, certaines de ces grandes entreprises sont sponsors de notre accélérateur. D'autres sont aussi sponsors de différents événements que nous avons au travers de l'année, que ce soit Geek on a Plane ou Primoni. Mais aussi, certains d'entre eux viennent à un programme qu'on a lancé avec Stanford sur comment faire de l'investissement. Et pour finir, certains de ces grandes entreprises sont notamment investisseurs dans notre fonds.
Dans votre rapport, du coup, quel challenge vous avez pu remarquer dans la relation entre ces grands groupes et les startups, que ce soit d'un côté ou comme de l'autre?
Les principaux challenges qui sont rencontrés sont notamment la vitesse d'exécution. On se rend compte justement que les startups vont très très vite et que notamment sur une prise de décision, une startup peut prendre une décision quasiment immédiatement, là où un grand groupe va le plus souvent devoir suivre un process et avoir un peu plus de temps nécessaire sur la prise de décision. Une autre chose qui est assez visible, c'est justement sur les échelles de temps. On voit qu'une startup en 5 à 7 ans peut devenir une unicorne, notamment Uber. Mais aussi, le fait, c'est que les grands groupes, un CEO d'un grand groupe, notamment aux États-Unis, restera CEO en moyenne 5 à 7 ans, là où une startup va mettre 5 à 7, voire 7 à 10 ans pour vraiment grossir. Et donc justement, on est sur des échelles de temps vraiment, vraiment différentes.
Des grandes différences culturelles, mais pour rester sur les différences culturelles, vous qui êtes français, qui connaissez bien l'Asie, qui avez vécu en Australie et qui travaillez maintenant pour un accélérateur américain, est-ce que vous voyez justement des différences dans leur rapport start-up grand groupe entre ces différentes régions?
On voit justement des différences entre les différents pays. Le Japon, qui est l'un des pays qui travaille le plus avec les start-up, on a trouvé que 21 des entreprises japonaises sur 25 qui travaillent avec les start-up le font au travers d'un fonds d'investissement et quasiment et uniquement au travers de cette manière-là. Une autre chose assez intéressante, c'est que par exemple au Japon aussi, on trouve des entreprises comme 7-Eleven dans l'agroalimentaire qui ont leur propre fonds d'investissement qui s'appelle 7 Ventures. On attendait aussi beaucoup des États-Unis. On pensait justement que ça allait être un des pays qui travaillait le plus avec les start-up, mais on a découvert que seulement 45,5% des entreprises américaines travailler avec les startups, ce qui est bien en dessous de la moyenne trouvée pour le rapport qui est de 52,4%. Et pour ce qui est de la France, on a trouvé un modèle qui est assez orienté sur la collaboration, qui est notamment mené par Orange de ce côté-là. Donc, comme vous l'avez mentionné avec Ecomobility Ventures, où justement on a 5 entreprises françaises qui collaborent pour faire l'investissement, que ce soit Total, EDF, Air Liquide, Orange et Michelin. Mais on retrouve aussi Orange justement sur une collaboration avec Deutsche Telekom, notamment sur leurs accélérateurs. Donc là, c'est assez intéressant parce que justement, on retrouve une collaboration qui est plus une collaboration horizontale, donc justement avec un compétiteur, comparé justement à la collaboration verticale que Orange a aussi avec Publicis au travers d'un fonds qui s'appelle Iris Capital. Mais en-delà justement de cette entreprise plutôt technologique type Orange, on retrouve d'autres entreprises qui viennent de secteurs où on imagine un peu moins des fois des collaborations avec les startups, que ce soit Bouygues Immobilier qui a lancé un fonds qui s'appelle Bird Ventures, ou Pernod Ricard qui au travers de sa marque Chivas engage avec les startups, ou bien même EADS avec BizLab qui est un accélérateur où justement il mélange les entrepreneurs et les intrapreneurs pour créer de nouvelles sociétés.
Vous avez même parlé notamment au-delà des grands groupes et des startups, des institutions publiques, et j'ai même découvert que la CIA avait investi dans Facebook.
Donc oui, la CIA a principalement des investissements dans tout ce qui est plutôt sécurité, mais ils ont justement fait aussi un investissement dans Facebook. On connaît certains gouvernements justement qui travaillent avec les startups. En France, il y a BPI qui fait beaucoup de choses. À Singapour, il y a par exemple Vertex, qui est un fonds d'investissement, ou bien même Spring, qui est plutôt une agence gouvernementale, qui fait aussi ses propres investissements. Donc les gouvernements ont aussi un rôle à jouer. Donc c'était une petite introduction sur ce que font les gouvernements.
Écoutez, merci beaucoup Arnaud, excellent rapport, et puis au plaisir de lire le prochain. Merci.
Merci Arnaud, on revient dans un instant. Suite et fin de l'atelier avec le crash test d'Antoine, le décryptage de Lila, et puis l'actualité vue par l'équipe de Zéronet.com dans une minute. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. On a encore un petit quart d'heure à passer ensemble avec tout à l'heure le crash test d'Antoine Cyr et puis Lila Megraoua pour son décryptage. Mais dans l'immédiat, direction la rédaction de 01net.com, le premier site d'actualité high-tech en France, avec son rédacteur en chef qui est avec nous chaque samedi. C'est Eric Le Bourlou. Bonjour Eric.
Bonjour.
Alors Eric, une actualité bien comme il faut cette semaine. Ouais. On va commencer par Apple.
Et oui.
Apple qui a donc dévoilé ce qu'on savait déjà finalement,
oui,
mais
ça.
Ils l'ont
et
fait
pas
officiellement.
Vraiment de surprise. Voilà, ils l'ont fait officiellement et il n'y avait pas de surprise. On vous en avait déjà parlé ici de tout ce qu'on attendait.
Exactement.
Bah, voilà. On s'était pas trompé.
Tout a été confirmé.
C'était donc principalement un nouvel iPhone plus petit qui s'appelle l'iPhone SE et il a quand même une particularité cet iPhone, c'est l'iPhone le moins cher qu'Apple a pu lancer pour un produit neuf. Hein. C'est la première fois qu'un iPhone, alors aux États-Unis il est à $399.
Moins cher que l'iPhone 5C qui était...
Exactement.
On va dire moins intéressant techniquement quand même.
Exactement.
À l'époque, hein.
Et là en France, on peut l'acheter en dessous de 500 euros, c'est-à-dire 489 euros. Donc c'est le moins cher des iPhones neuf produits par Apple.
C'est quand même un événement. Hein.
C'est un événement, ouais, c'est un vrai événement. Surtout qu'en fait, il n'est pas si intéressant que ça cet iPhone SE, parce que finalement, il est quasiment aussi puissant que l'iPhone 6S, hein, le dernier iPhone sorti. Il a juste un écran plus petit, mais en revanche, il a le même processeur, il a le même appareil photo à quelques détails près, notamment la stabilisation, qu'il n'a pas. Il a quasiment les mêmes fonctions, il a juste un écran plus petit. Et il est quand même beaucoup moins cher. Donc c'est vrai que c'est un produit assez intéressant finalement, d'autant que là, nous, on l'a pas encore eu malheureusement, mais on va le tester dans quelques jours, on va l'avoir. Et d'autant que les premiers tests qu'on vient voir aux États-Unis montrent que...
Ils sont plutôt positifs.
Ils sont plutôt positifs, puisque en plus il aura une meilleure autonomie, largement meilleure autonomie que l'iPhone classique. Bon, il a un écran de moins bonne résolution, donc il a un écran plus petit, ça consomme moins de batterie, et du coup, effectivement, il a une meilleure autonomie. Donc, c'est plutôt une belle surprise, en fait, finalement, cet iPhone, même s'il n'y a pas de, de révolution.
Il n'y a pas de quoi se rouler par terre.
Il n'y a pas de quoi se rouler par terre, mais, c'est un bel iPhone, d'autant qu'Apple, bon, on sait que cette année, ça pourrait être la première année où Apple vendrait moins de téléphones que l'année précédente. Donc, cet iPhone qui est moins cher, qui pourrait, en fait, séduire de nouveaux consommateurs un peu moins fortunés, pourrait redorer un petit peu les ventes, en volume, en tout cas, d'Apple.
Oui, après, essayons de décrypter cette stratégie de baisse des prix chez Apple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sentent, justement, c'est ce que vous disiez, en danger, par rapport au Samsung, au Huawei qui montent en puissance, etc., et qu'il fallait un téléphone en dessous des $400.
Exactement.
Ou est-ce que c'est simplement parce que, on va dire, le monde des nouvelles technologies évolue et qu'il fallait qu'ils sortent un téléphone petit et pas cher?
Exactement.
C'est assez étonnant, quand même.
C'est étonnant, mais en tout cas, c'est un produit qui potentiellement pourrait très, très bien marcher. Qui n'a pas d'ailleurs d'équivalent dans le monde Android. C'est ça qui est aussi étonnant, c'est qu'aujourd'hui cet écran en somme toute assez petit n'a plus d'équivalent.
Oui, ça n'existe plus.
Donc de facto c'est le téléphone de ce format le plus puissant.
Voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien avoir des petits téléphones. Ça peut avoir un sens. On le manipule d'une main, etc. Autre nouveauté qui a été annoncée lors de cette keynote, c'était lundi dernier, qu'on a pu suivre d'ailleurs sur 01net.com et 01net TV. Eh bien, c'est un iPad, un nouvel iPad.
Un nouvel iPad.
Là aussi, pas de quoi se rouler par terre. Hein.
Non, pas de quoi se rouler par terre. C'est un nouvel iPad estampillé Pro. Hein. Comme Apple nous avait lancé un iPad Pro en fin d'année dernière, un grand iPad avec un écran 12 pouces. Là, c'est l'iPad, on va dire, classique, avec un écran d'un peu moins de 10 pouces, qui est estampillé iPad Pro. Et donc qui est compatible avec ces nouvelles technologies, les nouvelles technologies qu'Apple avait présentées l'année dernière, qui sont notamment un écran sur lequel on peut écrire avec un stylet vendu à part, hein, bien sûr, évidemment.
Voilà, $99.
Hein. Oui, voilà. Hein.
Voilà.
Et mais c'est voilà, c'est le nouvel iPad de référence sur le format 10 pouces. Apple, on sait, essaye de vendre son iPad à d'autres marchés. Hein. Le marché de la tablette stagne un peu, donc du coup ils essayent de séduire les professionnels. Et c'est notamment avec ce genre de tablette qui est vendu non seulement avec un stylet en option, mais aussi un clavier, hein, ce qui le fait ressembler un peu à la Surface de Microsoft, que Apple espère séduire de nouveaux consommateurs un peu plus business, on va dire.
Voilà. Est-ce que ça suffira à faire évoluer cette tablette qui reste malgré tout un bel iPad?
C'est un bel iPad, voilà, mais
qui ne remplacera pas un PC.
Qui
ne
remplacera
pas,
même si c'est ce que dit Apple à tour de bras, que c'est fait pour remplacer votre PC, etc. Nous, on peut vous le dire, pour jouer avec quand même très souvent, ça ne remplace pas un vrai ordinateur. Mais c'est en tout cas le message marketing d'Apple. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ça devient le nouvel iPad de référence en 10 pouces, mais qu'il est aussi vendu un peu plus cher qu'avant, puisque maintenant, il est avant, alors que avant l'iPad était à 500€, maintenant celui-là est à 600€, donc bon.
C'est voilà. On baisse le prix de l'iPhone, mais on augmente celui de l'iPad.
Exactement.
En gros, c'est ça.
C'est un iPad Pro, quoi, voilà. C'est un peu plus cher, forcément.
Exactement. Mais le précédent reste évidemment dans les rayons.
Oui, exactement.
Dans la gamme.
Donc, il reste dans la gamme. Il y avait aussi une autre petite surprise, hein, dont on a moins parlé en fait dans cette keynote, c'était la baisse du prix de la Watch, la Watch qui a baissé de 50€, qui passe aux États-Unis sous la barre des $300 et en France à $349. Voilà, Apple baisse le prix de la Watch. On peut se demander pourquoi. Peut-être parce que c'est pas forcément le succès qu'il escomptait. Donc voilà, ils espèrent que comme ça, ils vont en vendre davantage.
Alors, est-ce que c'est parce que justement, elle se vend pas assez? Est-ce que parce qu'au bout d'un an, les composants électroniques coûtent moins cher et qu'on peut baisser? Voilà, on ne saura jamais, évidemment. Ouais. On va enchaîner après Apple. Eric, on va parler de Microsoft. Microsoft qui a eu le rôle de l'arroseur arrosé un peu cette semaine.
C'est un peu ça, ouais.
Avec un robot chatter qui a été lancé sur Twitter avec un petit peu de difficulté quand même.
Exactement. Alors ce robot, il s'appelait Tay. Tay, c'est en fait, il était censé représenter une jeune fille américaine de à peu près 19 ans, vous voyez. Elle était censée en fait simuler.
Au départ, ça paraît intéressant.
C'est plutôt sympa pour discuter avec des ados. Voilà, vous n'avez pas forcément d'amis. Vous voulez discuter un petit peu sur Twitter.
C'est ça.
Vous n'avez personne
sur Twitter. Vous avez un robot.
Vous allez pouvoir discuter avec elle. C'est un projet de Microsoft Research qui voulait par là montrer quels étaient leurs progrès en intelligence artificielle, faire un petit peu d'expérimentation en matière de robots de chat comme ça. Donc ils ont lancé ça. C'était très sympa au début. Alors, vous pouvez poser des questions, lui demander votre horoscope, c'était très sympa, vous répondez gentiment, etc. Sauf que Microsoft avait prévu de faire évoluer son robot en fonction des conversations qu'elle pouvait avoir avec les internautes.
Oui, le fait de, et ça arrive souvent en intelligence artificielle,
on fait apprendre l'apprend de ses conversations.
Sûr.
Et le problème, c'est que sur Twitter, il n'y a pas que des gens tout à fait gentils sur Twitter. Il y a aussi des néo-nazis, il y a aussi des gens racistes, il y a aussi des gens sexistes.
Oui.
Donc, en 24 heures.
Et puis, d'autres qui aiment faire des blagues.
Et qui aiment faire des blagues, des trolls, hein.
Voilà,
il y en a beaucoup. En 24 heures, cette jeune fille de 19 ans simulée s'est transformée en affreuse raciste, sexiste, qui sortait des insanités. Donc, on pourra même pas vous les sortir ici, hein, parce que franchement, ça passerait pas. Mais voilà, en gros, des choses innommables, hein, qui ont été simplement publiées.
Donc
en réponse.
Donc elle a été dévergondée en quelque sorte.
Et violemment.
Hein,
on peut le dire, puisque voilà, elle répétait des propos absolument dingues sur le nazisme, sur l'antisémitisme, des trucs horribles. Mm-hmm. Donc voilà, que Microsoft, du coup, qui n'avait pas vu le coup venir, sans doute,
hein, oui, bien sûr.
S'efforçait d'effacer tweet par tweet sur Twitter. Donc on voyait un tweet arriver, puis deux minutes plus tard.
Ça, c'est pas possible, on peut pas laisser.
On peut pas laisser. Donc voilà, ça s'est terminé, en fait. Bon, tout le monde prenait des captures, évidemment, puisque tout le monde a pris des captures d'écran de tout ça. On a d'ailleurs fait une petite collection de toutes ces phrases.
À retrouver sur zeronet.com.
Ouais, et sur BFM Tech aussi, d'ailleurs.
Et BFM Tech.
Et finalement, Microsoft a dit, on arrête les frais. On peut pas continuer comme ça, donc on va couper ce robot. Donc pour l'instant, donc elle a simplement dit gentiment bye bye tout le monde, je reviendrai. J'ai besoin de quelques améliorations,
quelques aspirines.
Et donc voilà. Et donc Microsoft a simplement pour l'instant coupé ce service qui voilà ne fonctionne plus parce que en fait elle s'est pris la violence d'Internet en pleine tête en quelques instants et ça n'a pas marché.
Et voilà. Comme on peut même dévergonder une intelligence artificielle.
Oui. Hein. On espère que toutes les intelligences artificielles vont pas finir comme ça, parce que sinon
on est mal barré.
On est mal barré, ouais.
On va maintenant parler de sans doute la sortie Blu-ray la plus attendue pour cette année 2016. C'est la sortie de Star Wars.
Oui.
Donc le Réveil de la Force, c'est le 7e épisode.
Exactement.
Voilà, film très attendu qui a eu un carton phénoménal un peu partout dans le monde, qui en plus n'a pas déçu les fans. Hein. Franchement, il a été plutôt bien accueilli.
Plutôt bien accueilli. Ouais.
Le Blu-ray donc devait sortir le 16 avril prochain.
Exactement.
Donc ça veut dire dans 3 semaines. Mais Il y a un problème.
Il y a un petit problème puisque voilà, c'est d'ores et déjà bon peut-être le film le plus vu en ce moment chez les gens,
mais pas en salle.
Mais pas en salle et ni même parce qu'ils ont acheté le Blu-ray. Hein, c'est parce qu'il n'est pas encore sorti. C'est juste parce qu'il est disponible sur à peu près toutes les plateformes pirates du monde. Hein. Il est sur, on va pas citer les sites, vous les connaissez tous, mais tous ces sites BitTorrent, tous ces sites de téléchargement direct, tous ces sites de streaming.
De newsgroup
voilà.
Aussi. Hein,
il a fuité. Star Wars 7 a fuité sur Internet. Et puis depuis.
Et puis c'est pas quelqu'un qui filme ça au caméscope dans une salle de cinéma.
Non, c'est la version Blu-ray. Les gens qui ont fait fuiter ça sont des professionnels du piratage. Hein, ils travaillent pour des équipes de pirates et ils ont récupéré on ne sait comment ce Blu-ray et ils ont d'ailleurs publié les photos du Blu-ray en lui-même pour bien montrer qu'ils avaient récupéré le Blu-ray et l'ont publié sur Internet en excellente qualité et voilà,
c'est incroyable cette histoire
et c'est désormais le film le plus piraté de la toile. Là il y a même pas concurrence sur voilà, un éventuel second. Star Wars 7 est premier des téléchargements pirates partout, et c'est un vrai problème puisque on sait que voilà Disney a fait beaucoup d'efforts pour tenter de limiter le piratage via Google. Hein. Ils ont
surtout qu'avec Disney ça plaisante pas en général. Hein.
Non, ça plaisante pas.
Voilà, c'est il y a Mickey Minnie, mais Picsou est là et franchement ça rigole pas. Donc là, je pense que le responsable de la sortie du Blu-ray de Star Wars doit passer quand même un mauvais quart d'heure.
Le problème c'est qu'on ne sait pas qui a fait ça. On peut douter que ça peut être par exemple chez un distributeur.
Mais c'est quelqu'un qui a réussi à avoir la galette avant tout le monde.
Exactement. Et qui l'a.
Enregistré. Voilà.
Et le problème c'est que évidemment c'est incontrôlable puisque maintenant c'est sur tous les sites peer-to-peer. Ce n'est pas que Disney travaille à limiter le nombre de résultats dans Google. En fait, ils font des demandes à Google pour qu'ils suppriment les liens vers les contenus pirates, mais ça ne suffira pas pour contenir le piratage
sûr,
de ce
tard.
Film, donc voilà, qui n'est pas encore sorti, mais qui est déjà piraté.
Voilà, c'est un coup dur hein, quand même. On peut même pas imaginer le manque à gagner en fait pour Disney.
Oui, ça va être assez énorme. Sur ce qu'il y a aussi tous les gens qui l'ont pas vu en salle, qui vont en profiter maintenant, qui est en bonne qualité.
Alors, ça n'empêchera pas aux gens de l'acheter, bien évidemment, mais voilà. Et ça va, on va dire, cannibaliser forcément les ventes.
Du Blu-ray, ouais.
Merci beaucoup Éric Le Bourlou. Éric Le Bourlou, que la force soit avec vous.
Merci.
Si je puis me permettre. Allez, on va revenir dans un instant pour la suite de cet atelier numérique à fin, avec le crash test d'Antoine et Lila Megraoua. À tout de suite.
L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Dans un instant, notre crash test. Mais auparavant, on retrouve l'une des figures de l'atelier numérique. C'est Guillaume de Groisse qui est avec nous. Salut Guillaume.
Bonjour François, bonjour à tous.
Alors Guillaume, cette semaine, vous nous proposez votre décryptage et on va parler des transports cette semaine.
Alors effectivement François, on va parler des transports. J'avais envie de vous parler des transports parce que vous l'avez sans doute vu que vous étiez en plus en Californie il y a très peu de temps.
Ouais.
Les premiers tubes de l'Hyperloop de Elon Musk sont arrivés dans le Nevada.
Ouais, et là c'est vraiment du concret là, ça y est, hein, on y est.
Voilà, c'est du concret. Ils vont commencer les tests avec une première rampe qui fera un kilomètre, ils vont tester un truc à 500 km/h et puis ils vont incrémenter comme ils savent si bien faire dans la Silicon Valley. Donc ce qui est amusant avec cette histoire d'Hyperloop, c'est que finalement le transport, ça a pendant très longtemps été un sujet d'infrastructure, hein. C'est les ponts, les routes, le chemin de fer, etc. Et puis tout ça était devenu un peu dépassé, hein, avec la révolution technologique, et l'infrastructure de la révolution technologique, c'était pas les ponts ou les routes, c'était le cloud, les GPS, le réseau, etc. Et donc Elon Musk, le super disrupteur, revient avec un projet Hyperloop qui va reconstruire des infrastructures. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve, comme point d'introduction sur le transport.
D'autant, Guillaume, que toutes ces infrastructures sont saturées, on le voit aujourd'hui à Paris, hein.
Ah bah, je pense qu'effectivement, on se rend compte aujourd'hui que toutes ces anciennes infrastructures traditionnelles sont saturées, que le mode monomodal est plus du tout efficace. Donc, est-ce que créer une nouvelle infrastructure, ça va résoudre le problème? Ça, je sais pas, l'avenir nous le dira. Mais ce qui est amusant là-dedans, c'est de voir que la Silicon Valley, le monde des startups, de la disruption, s'intéresse à ce sujet du transport, alors que bon, effectivement, hein, le digital, c'est l'immatériel, etc. Et puis là, on les retrouve finalement dans des capteurs avec l'Internet of Things, on les retrouve dans les trains, on les retrouve dans les avions, et puis on les retrouve dans nos smartphones, donc dans nos voitures. Et d'un seul coup, finalement, la Silicon Valley arrive à s'intéresser à ce sujet du transport. Et là, qu'on voit. Oui.
Non, mais on se rend compte en fait que, évidemment, c'est pas simplement pour rendre le monde meilleur, c'est qu'il y a évidemment un aspect business aussi derrière tout ça.
Non, il y a bien entendu un aspect business, sinon ce serait pas la Silicon Valley,
oui.
Ce serait une ONG. Donc l'aspect business, il est très clair. Et là, on voit vraiment effectivement deux mondes qui s'affrontent. Le monde Google, qui est le monde de la pub. Et en fait, qu'est-ce qu'a fait Google? C'est de dire, puisque le monde automobile va pas assez vite pour que les gens qui sont dans leur voiture, je puisse leur servir de la pub, parce que finalement, hein, Google a accepté que globalement, quand on travaille, il ne doit pas nous envoyer trop de pubs, et quand on dort, c'est encore un peu compliqué, donc il lui restait un peu de temps, qui était le temps qu'on passait derrière son volant, donc Google dit, j'enlève le chauffeur, tu n'as plus besoin de conduire, donc je peux te servir de la pub. Et de l'autre côté, ce que dit Elon Musk, c'est finalement, avec cette même logique, qui est le temps que tu passes à conduire, je peux pas te toucher pour effectivement envoyer de la pub, pour utiliser ton temps de cerveau disponible. Donc je vais massivement réduire ton temps de transport, et au lieu de mettre une heure et demie d'avion pour faire San Francisco Los Angeles, avec Hyperloop on nous promet de ne mettre plus que 30 minutes.
Ouais, c'est quand même incroyable, hein. 30 minutes pour faire ce qu'on met en avion pendant 1h30.
Ouais, exactement. Et donc finalement, bien entendu que ça va améliorer le monde si on veut, hein, parce que se déplacer plus vite, c'est quand même appréciable. Mais l'objectif derrière, c'est un objectif de business. Alors, petit clin d'œil, ce qui est amusant, c'est que toute cette technologie, tous ces capteurs, tout ce web, etc., c'est aussi ce qui permet à des services comme BlaBlaCar, comme Vélib ou Autolib d'exister. Et finalement, c'est pas si mal que ça.
Merci beaucoup Guillaume de Groisse pour cette vision des transports, et on enchaîne tout de suite avec le crash test d'Antoine Cyr.
L'atelier numérique sur BFM Business.
On va parler donc de bande dessinée, mais aussi de nouvelles techno.
Exactement, on va en parler avec un auteur de bande dessinée qui s'appelle Scott McCloud. Alors déjà, vous avez vu, le gars, il s'appelle Cloud.
Ah oui, il a bien fait.
Il a bien fait.
Là, il est au top.
Mais c'est absolument involontaire. Il est né en 1960, donc le cloud, à l'époque, il y avait déjà des nuages, mais dans le computing,
pas encore,
hein. Et donc, il se trouve qu'il s'appelle Cloud. Et là, donc, Scott McCloud, qui est américain, qui est de Boston, dans le Massachusetts, crée plusieurs séries de bandes dessinées qui sont des séries à succès, et surtout, il va avoir l'idée, en 1993, de créer une bande dessinée qui s'appelle L'Art Invisible, et qui est une bande dessinée qui explique l'art de la bande dessinée. Et donc, qui explique les, je dirais presque les, là aussi, on employait à un moment dans cette émission le mot neuronal, il explique presque le fonctionnement neuronal de la bande dessinée.
D'accord.
Évidemment, c'est très intéressant puisque ce type de recherche existe aussi sur tous les gens qui travaillent sur les écrans, sur la façon de faire fonctionner la relation de l'individu avec tous les signaux numériques qui nous sont envoyés. Donc déjà au départ, il y a une certaine convergence de démarches entre celle de Scott McCloud et celle des gens du monde
du numérique.
Voilà. Et donc il va se promener dans tous les États-Unis pour expliquer son ouvrage. Donc là aussi, il y a un côté évangélisateur qui ressemble un peu. On est finalement dans cette période d'évangélisation du net. Donc lui, il va être l'évangélisateur de son ouvrage. Du coup, d'ailleurs, il fait des conférences dans le monde entier sur la bande dessinée. Il va être chargé d'écrire des histoires de Superman. Donc là aussi, bon ben il arrive dans un monde futuriste. Et puis en 1998, donc quand même il y a maintenant presque 20 ans, il lance son site internet et va être un des pionniers des webcomics.
1998. Le haut débit n'existe pas, non. On est vraiment aux prémices du web. Hein.
Alors, il faut reconnaître que c'est des webcomics qui ont une interactivité qui est extrêmement limitée.
Oui.
À l'époque, mais il c'est quand même des expérimentations sur le format, sur la lecture, qu'il va poursuivre.
Il s'accapare ce média, nouveau média.
Exactement, il s'accapare ce nouveau média et il va faire différentes séries de bandes dessinées qui sont très intéressantes. Par exemple, il va faire une série qui s'appelle The Right Number, qui est pour l'instant inachevé, mais il a dit qu'il travaillait sur la suite, donc on va sans doute la voir arriver. Et puis il fait une série de petites histoires qui s'appelle The Morning Improve, et donc dans ces petites histoires, on les trouve encore aujourd'hui sur son site, hein, donc je vous invite à aller sur le site de Scott McCloud, scottmcloud.com. Par exemple, il y a une histoire qui s'appelle But No One Ever Noticed The Walrus. Donc le walrus, c'est le morse, hein, c'est comme il y a dans la chanson des Beatles, I am the walrus. Donc c'est une histoire assez incroyable avec un morse qui est en costume, tout à fait normal, qui arrive dans un bureau
et
personne ne le remarque, et en plus le morse a rendez-vous à 10h du matin et tout le monde lui passe sous le nez, personne ne s'occupe de lui, tout le monde l'ignore. Et en plus, il se trouve que, bien entendu, le brave morse a faim. Et en plus, le bureau en question se trouve pas loin d'une poissonnerie. Et donc, d'un restaurant de poisson.
Ouais.
Et donc, tout le monde est en train de parler du restaurant de poisson. Évidemment, le morse est affamé. Bon, je vous laisse découvrir la fin de l'histoire. Mais évidemment, c'est assez touchant et assez émouvant. Alors, en 98, il va avoir une expérience qui va être un petit peu moins convaincante, puisqu'il va créer The New Adventures of Abraham Lincoln, qui mélange de manière peu convaincante les dessins traditionnels et des fonds qui sont réalisés par l'ordinateur. L'album va recevoir un mauvais accueil, et d'ailleurs Scott McCloud lui-même parle lui-même de noble échec quand on l'interroge sur cette bande dessinée. N'empêche que toutes les expérimentations de McCloud ont été vues et suivies par les gens de la Silicon Valley, par les mondes de l'Internet.
D'accord.
Et lorsque Google va lancer en 2008 Chrome, c'est
donc le navigateur
qui est aujourd'hui, je crois, le premier navigateur du monde. Hein, oui. Je crois qu'il y a un tiers.
Oui, il a dépassé Internet Explorer, Firefox, etc.
Voilà, je crois qu'aujourd'hui il y a plus d'un tiers des gens dans le monde entier. Donc ça doit inclure, j'imagine, la concurrence des navigateurs chinois et autres. Mm-hmm. Hein, il y a plus d'un tiers des gens dans le monde entier qui utilisent Chrome. Et donc lorsque Google va lancer Chrome, en fait, c'est une bande dessinée de Scott McCloud qui va expliquer sur 38 pages comment fonctionne Chrome.
C'est génial.
Et donc c'est voilà. Donc c'est,
et cette bande, sinon on pouvait la consulter en ligne.
Tout à fait. Donc c'est Scott McCloud qui est à l'origine qui est l'homme qui a lancé, si on peut dire, Chrome, en tout cas, qui a expliqué le premier Chrome. Donc c'est quand même très très intéressant. Alors aujourd'hui, il travaille aussi sur des livres, hein, parce qu'il croit encore au papier. Donc il vient d'écrire une bande dessinée qui s'appelle Le Sculpteur et qui a été publiée en France en 2015. Donc c'est très récent. Et puis alors donc il a toujours bien entendu son site internet. Et là sur son site internet, il fait la promotion de ses propres œuvres, mais aussi des œuvres des gens qu'il aime bien. Donc par exemple là il y a une histoire un peu triste qui est apparue récemment sur son site, qui n'est pas un livre qu'il a écrit lui, mais qui est la mention d'un livre écrit par un collègue qui s'appelle Rosalie Lightning et qui est une bande dessinée écrite en hommage par un papa à sa fille qui est morte très jeune. Voilà, donc il y a aussi ce côté émotion qu'on va retrouver sur le site de Scott McCloud.
Voilà, Scott McCloud, on va dire la star de ce crash test de cette
semaine. Et sur lequel, encore une fois, sur son site, vous pouvez trouver toutes ces web bandes dessinées.
Merci beaucoup Antoine, fan de bande dessinée bien sûr, hein. Antoine Cyr, c'est avec Antoine que se termine cet atelier numérique sur BFM Business. Merci d'avoir été avec nous pendant ces deux heures. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Profitez bien de ce long week-end de Pâques. Et on se retrouvera bien sûr samedi prochain, vous le savez, 16h-18h. À très vite.